Les matins de France Culture.
7h25, la revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour,
ce matin,
Guillaume.
Le prix à payer.
Oui, en l'occurrence, le prix de la démocratie. Comment se poser aujourd'hui en gardien des valeurs démocratiques? La question parcourt ce matin de très nombreux sujets d'actualité, à commencer par celui de la Hongrie, qui, selon The Wall Street Journal, devrait être perçue comme une leçon, ou disons plutôt un avertissement pour l'Europe. Pourquoi? Non pas pour ce que l'on savait déjà, que Viktor Orban serait réélu dans un pays où les atteintes à l'état de droit se sont pourtant multipliées, mais parce qu'avec près de 50% des suffrages, la légitimité démocratique est aujourd'hui de son côté. Pis encore, relève à son tour la Deutsche Welle, puisque si l'on y adjoint les résultats du premier parti d'opposition, Jobbik, cela signifie que près de 7 Hongrois sur 10 ont voté pour un parti d'extrême droite et un autre parti encore plus à droite. Or, dès l'instant où un chef d'État ou un gouvernement est élu par le peuple, rappelle un professeur honoraire de droit international interrogé dans les colonnes du Temps, on les considère comme des représentants légitimes. D'où cette question, a priori paradoxale. À quelles conditions peut-on considérer le résultat d'un vote populaire comme légitime? À l'évidence, la frontière aujourd'hui entre démocratie et dictature tend à s'estomper. En Europe, reprend le site de la Deutsche Welle, chaque nouvel État membre signe la charte des droits fondamentaux de l'UE qui interdit toute forme de discrimination, qu'elle soit raciste, religieuse ou sexiste. L'état de droit, en tant que condition préalable au bon fonctionnement de la démocratie, est la raison identitaire de cette union des pays européens. Or, depuis des années, nous assistons à une augmentation du nombre de pays gouvernés par des partis qui ridiculisent et même luttent activement contre les valeurs fondamentales de l'UE. Nous en avons été témoins, mais nous n'avons rien fait, de sorte qu'en détournant notre regard, nous avons aujourd'hui porté atteinte à notre propre crédibilité en tant que gardien des valeurs démocratiques. Dès lors, comment par exemple condamner le racisme du président turc Erdogan d'un côté et de l'autre, sourire sur la photo du prochain sommet de l'UE aux côtés de Viktor Orban? Et le quotidien de Londres, The Guardian, de résumer ainsi le dilemme auquel se retrouvent désormais confrontées les institutions européennes. Comment réaffirmer ses objectifs moraux quand cela revient à répudier aujourd'hui le verdict démocratique des urnes de ses États membres?
Et depuis quelques jours, Thomas, la question de la légitimité démocratique justement se pose dans un autre pays de l'Union européenne, la Belgique.
Oui, vendredi dernier, nous apprend le Courrier international, le parti Islam, acronyme pour Intégrité, Solidarité, Liberté, Authenticité et Moralité, a annoncé qu'il se présenterait dans 28 communes à Bruxelles et en Wallonie lors des élections à l'automne prochain. Et il en a profité pour présenter quelques axes de son programme. Parmi ceux-ci, on trouve notamment l'instauration d'un État islamique en Belgique, l'application de la charia et une séparation des hommes et des femmes dans les transports en commun. D'où cette question débattue aujourd'hui dans la presse. Faut-il interdire le parti Islam? Pour le quotidien flamand Het Nieuwsblad, la prudence s'impose avant d'interdire une formation politique. Tout d'abord parce qu'elles sont un baromètre de ce qui agite la société. En clair, les idées ne disparaissent pas subitement quand on interdit leur véhicule politique. Sans compter que l'interdiction d'un parti est plus facile à dire qu'à faire. En l'occurrence, il faudrait pour cela créer une nouvelle loi. Mais plus encore, enchérit son confrère Der Standard, il n'y a que dans les dictatures que l'on interdit des opinions. Et l'éditorialiste d'ajouter aussitôt, je connais en revanche une façon de couper l'herbe sous le pied du parti Islam, mettre fin au racisme et à la discrimination sur le marché de l'emploi et de l'immobilier, ainsi que dans l'enseignement, afin que les musulmans se sentent, dit-il, acceptés et respectés.
Et à présent, Thomas, quelle réponse apporter au régime de Bachar al-Assad un peu plus de 48 heures après l'attaque chimique présumée qui a fait des dizaines de morts dans la Ghouta orientale?
Et la question est à la une notamment d'une bonne partie de la presse britannique ce matin, quand l'ex-ministre des Affaires étrangères, William Hague, interrogé dans les colonnes du Daily Telegraph, juge que l'alternative pour l'Occident se résume à prendre des mesures militaire contre Damas ou risquer de légitimer la guerre chimique. The Times note que la première ministre est désormais sous pression pour se joindre à des frappes en représailles dirigées par les États-Unis. Après que Donald Trump a promis hier soir une décision imminente sur une réponse forte visant, je cite, à faire payer Bachar al-Assad, l'option militaire est donc de retour sur la table, prévient de son côté The New York Times. Enfin, pour The Wall Street Journal, l'affaire semble entendue. La triste vérité, dit-il, c'est que seule la ligne dure peut empêcher des dictateurs dictateurs comme le président syrien d'utiliser des armes de destruction massive contre leurs citoyens. Reste toutefois à savoir si l'on impose la démocratie avec des bombes.
Enfin, révolution stratégique ou volte-face temporaire.
Oui, dans les colonnes du Temps, un spécialiste des relations israélo-palestiniennes écrit « Une politique juste, c'est celle qu'adopte un gouvernement après avoir essayé toutes les autres. » Une manière, selon lui, de décrire la nouvelle arme du Hamas contre Israël à Gaza, la non-violence. La semaine dernière, le groupe islamiste a en effet appelé les Palestiniens à maintenir le caractère pacifique des manifestations à Gaza contre l'occupation israélienne. Et c'est ainsi que vendredi dernier, les Gazaouis mobilisés le long de la frontière ont donc brûlé des pneus, lancé des cocktails Molotov et des pierres. Mais les heurts n'ont pas dégénéré en affrontements armés, du moins entre les deux camps. Alors la non-violence n'est pas pour autant une potion magique. 9 Palestiniens ont été tués et quelques 300 autres blessés. Mais en renonçant à faire feu sur les soldats israéliens, le Hamas a ainsi atteint un objectif majeur, faire pression sur Israël en mettant en avant les civils désarmés tués par les snipers de Tsahal.
Merci Thomas Cluzel.